Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Comment est-ce que je vais rassurer quand moi-même je le suis pas en fait?
Je me suis dit, il faut vraiment qu'elle puisse se reposer et que je puisse faire un maximum de choses. Et en fait, j'ai eu tort parce qu'elle s'est sentie un peu mise de côté.
Les pères, ils ont envie d'autre chose. Ils sont en train de se créer une nouvelle paternité. C'est difficile pour eux, mais c'est très beau à voir.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, ils doivent vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé?
T'aimer? Mais qui a dit que je dois t'aimer?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Antoine ?
Alors, je suis venu vous parler de mon rôle de père dans la naissance de mon fils, comment j'ai vécu tout ça et comment j'ai accompagné ma compagne dans cette aventure.
Alors, si on remonte chronologiquement, comment les choses se sont passées pour vous à partir de ce projet avec votre compagne d'avoir un enfant ?
Vous voulez dire à partir du moment où on décide d'avoir un enfant ou où on sait qu'on va avoir un enfant ?
Alors, les deux ?
Comment on décide ? Déjà, j'ai une différence d'âge de 10 ans avec ma compagne. C'était une envie qui venait au départ un peu plus de moi. On avait eu pas mal de discussions là-dessus. Au début, je me disais, moi, là, j'ai 40 ans. Mais je me disais, j'aimerais bien quand même avoir un enfant avant 40 ans. En discutant, je me suis rendu compte que je pense que c'était contre-productif de mettre une certaine pression. Donc, au final, je me suis dit que j'en reparlerai plus et qu'on verrait. Et en fait, à l'aube de mes 40 ans, un peu avant, elle m'a dit qu'elle avait envie aussi. Donc voilà, tout s'est bien goupillé. Finalement, en quelques mois, elle est tombée enceinte. On était contents. C'était plutôt
ouais,
une bonne
comment
nouvelle.
Comment ça s'est passé à ce moment-là? Voilà, vous avez su, ça y est, il y a une grossesse. Comment ça s'est passé pour vous?
Elle comptait beaucoup les semaines, quand est-ce qu'elle avait eu ses règles pour la dernière fois, etc. Et moi aussi. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit, vaut mieux qu'on arrête de compter tout ça. On verra bien. Mais j'ai menti parce qu'en fait, moi, de mon côté, je comptais quand même. Et à un moment, je comptais et je me disais quand même, là, ça fait bien une semaine de retard. Et j'avais vu un peu sur Internet qu'ils disaient à partir de 2 semaines de retard, on peut faire un test, quoi. Je me suis dit que j'allais encore attendre une semaine et il s'est passé un truc un peu bizarre. J'étais chez ma sœur qui a 2 enfants et son plus jeune des fils a regardé Héloïse, donc ma compagne, et a dit « Ah, c'est bizarre, on dirait que t'as un bébé dans le ventre ». Donc je me suis dit « Faudrait peut-être qu'on fasse un test ». On a fait un test et puis il était positif, quoi. Donc voilà.
Et du coup, après, pendant la grossesse, alors déjà là, vous nous dites, Antoine, que finalement, avant même que le bébé arrive, que la grossesse se mette en route, vous étiez déjà très impliqué, voilà, que vous suiviez le cycle, voilà, vous semblez être très informé sur tout ça.
Je me suis renseigné sur le moment parce que je connaissais pas du tout ça, mais en effet, ça m'intéressait de savoir comment ça se passe exactement. Je vais beaucoup voir en général quand est-ce qu'il faut faire les choses. J'aime bien les règles. On dit, il faut faire des tests à 2 semaines, je vais attendre 2 semaines pour faire les tests, etc. Donc oui, je me renseignais pas mal dessus. Ouais.
Et
Pendant tout ce temps de la grossesse, comment vous avez trouvé votre place? Voilà, comment s'est construit pour vous cette identité de père, ce rôle de père?
Ça s'est fait assez naturellement dans la relation que j'ai avec Héloïse, finalement. C'est vrai que quand on a des rendez-vous médicaux, c'est toujours plus concentré sur la femme que sur l'homme, ce qui me semble aussi normal, parce que c'est elle qui est en première ligne, c'est son corps qui est en jeu. Même des fois, pour des questions comme les antécédents médicaux, on va passer plus de temps sur elle que sur moi, parce que j'imagine qu'il y a plus de choses qui peuvent passer par elle, quoi. Donc c'est pas de ce côté-là où j'ai pu m'impliquer, mais dans la relation qu'on a à deux, par contre, ça s'est fait assez naturellement, c'était pas très réfléchi. Je pense qu'elle était forcément plus impliquée que moi, elle s'occupait de prendre les rendez-vous, etc. Mais moi j'étais présent à chaque fois, par curiosité, et aussi parce que pour moi c'est un truc qu'on fait à deux, et que ça m'aurait embêté de l'abandonner toute seule en disant « t'y vas, moi j'ai autre chose à faire ». Voilà.
Dans ces rendez-vous, est-ce que vous avez eu le sentiment que le corps médical ou les professionnels auxquels vous aviez affaire vous donnaient une place?
Pas spécialement. Je suis pas non plus mis de côté. Et c'est vrai que si jamais à un moment il faut l'ausculter, il me proposait de venir. Donc quand même, j'existais. Suffisamment pour moi d'ailleurs, quoi. Mais c'est vrai qu'il ne s'adresse qu'à Héloïse. On me parle très rarement, on me regarde même rarement, tellement que quand il y a des personnes du corps médical qui me regardent régulièrement, je le remarque. Je me dis, la personne me regardait beaucoup aujourd'hui. Mais bon.
C'était plutôt quelque chose d'agréable, de désagréable?
Oui, c'est plutôt quelque chose d'agréable, oui. Après, c'est normal. C'est agréable, mais en même temps, je me dis, je vais pas demander de l'attention, parce que c'est pas forcément moi qu'on va ausculter, moi qui vais accoucher, etc. Mais oui, c'est vrai que c'est agréable quand quelqu'un fait attention à vous, vous parle, vous pose des questions. On est un peu en demande de tout ça, quoi.
Oui, ça validait un peu la légitimité de votre présence.
C'est ça, oui, c'est ça, exactement.
Et pour l'accouchement, alors j'entends quand même dans ce que vous nous dites qu'il y avait quelque chose d'assez évident pour vous, d'être présent, d'aller à tous les rendez-vous. Est-ce que c'est posé pour vous la question de est-ce que vous alliez assister ou pas à l'accouchement, ou est-ce que c'était dans cette continuité?
Non, ouais, c'était assez évident que de toute façon j'allais assister à l'accouchement. Ça m'étonnerait qu'aujourd'hui j'ai un ami qui me dise ma copine a accouché, mais j'étais pas là parce que je voulais pas être là. Je pense que je serais très surpris. J'ai l'impression que ça se fait rare aujourd'hui. Bon, je me trompe peut-être. Mais oui, c'était important d'être là parce que c'est un moment assez fort, et encore aussi pour être là pour aider Héloïse qui est là, pour l'accompagner, quoi. Parce que c'est un moment que j'imaginais qui pouvait être compliqué, et ça l'a été, donc c'était cool que je sois là.
Ouais, du coup, quel a été votre rôle durant l'accouchement? La naissance de votre fils.
Alors déjà, c'est un rôle que j'ai découvert en y étant, quoi. Ça a été assez... C'est vrai que j'aurais aimé qu'on me dise, il va falloir faire ça, ta présence, elle va être importante pour ça, et toi, aussi falloir que tu te préserves pour ça. J'avais eu quelques amis qui m'avaient dit, si t'as le temps pour te reposer, essaye de te reposer quand même, parce que ça va être fatigant. Mais moi, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi éprouvant. Et donc, c'était surtout un rôle de soutien, en fait, d'être présent, d'essayer de rassurer, d'essayer d'accompagner au maximum. Ce qui est dur, c'est qu'il faut essayer de rassurer quand nous-mêmes, on n'est pas rassuré. Donc ça, c'était la partie, je pense, qui a été compliquée pour moi, que j'ai le plus mal vécu. Mais finalement, après coup, Héloïse m'a dit que ça a été important, que j'ai eu des mots qui, elles, l'ont aidé à des moments où c'était peut-être un peu dur, quoi.
Donc, concrètement, est-ce que vous pouvez, pour qu'on puisse se le représenter, à quel moment vous avez pu peut-être paniquer ou être inquiet, et que là vous vous êtes dit, il faut quand même que je tienne debout, que je fasse face pour Héloïse?
Par exemple, elle était sous péridurale, et quand elle est sous péridurale, elle a des moments où ça va, et il y a des moments où elle va être très fatiguée, elle va avoir des tremblements, elle va avoir très froid, elle va se sentir très faible. Et y a des moments comme ça où elle me disait, mais je vais jamais y arriver, quoi. Si je suis comme ça, quand faudra pousser, quand faudra faire venir le bébé, j'en serai incapable. Et alors que moi, je me disais, je sais pas si tu vas y arriver. Je lui disais, non, mais il y a des moments où tu vas bien aussi, regarde. Quand on me dit, il faut marcher un peu, tu vas mieux, t'as l'énergie qui revient. je me convainc autant que je la convainc elle, je pense, quoi.
Oui, alors que vous pouviez douter aussi.
Exactement, exactement. Mais ouais, je sentais qu'il fallait pas que je montre que je doute trop à ce moment-là, quoi, et que. Et puis en fait, c'est des mots qui me font du bien à moi aussi, quoi. Et en réussissant à me convaincre, je la convainc aussi, quoi.
Quand vous disiez tout à l'heure, Antoine, j'aurais aimé qu'on me dise ça ou que j'allais devoir faire ça. Concrètement, là, vous nous dites la question du repos, en tout cas de se préserver, de vous écouter, d'être peut-être un peu plus à l'écoute de vos besoins. Est-ce qu'il y a d'autres choses un peu concrètes que vous auriez aimé savoir ?
Après, c'est toujours compliqué parce qu'on peut nous dire des choses avant. Est-ce que si on me l'avait dit avant, moi, j'aurais vraiment percuté et me serais préparé autrement ? Mais qu'on me dise que ça va être dur, que ça va être, ça peut être quelque chose de compliqué, ça peut être long, ça peut être très éprouvant, et de voir un moment la personne avec qui on a construit sa vie souffrir, ne pas être bien, avoir peur, c'est quelque chose d'éprouvant et de compliqué, quoi. Et là-dessus, j'étais pas préparé parce que personne me l'a dit, alors que après la naissance, les gens m'ont dit. Des amis à moi, t'as vu comment elle peut souffrir, comment c'est compliqué, comment ça peut être dur de voir sa compagne souffrir et aussi de dire, t'as vu comment elles arrivent à encaisser tout ça et à traverser ce moment-là, finalement, peut-être plus facilement que nous, on a l'impression en le voyant, quoi. Peut-être que, en tout cas, moi, je pense que si plus tard, je parle avec quelqu'un qui attend un enfant, peut-être que j'essaierai de lui parler de ça un petit peu. Après, chacun a son expérience, donc c'est difficile, mais peut-être que si on m'avait dit ça, j'aurais été un peu plus préparé, quoi.
Et comment ça s'est passé pour vous quand votre fils est arrivé ?
Alors déjà, comme il y a eu un long travail, c'était d'abord un soulagement, quoi. Et là-dessus, pareil, avec Héloïse, on était assez alignés. Il y a eu une espèce de, comment dire, de baby blues, quoi, de se dire, OK, il est là. Donc il y a toujours cette image de, voilà, une naissance, c'est que du bonheur, c'est génial. On nous dit pas, bah non, en fait, une naissance, c'est très dur, l'accouchement. Après, on est très fatigué. Et puis c'est bizarre parce qu'il y a un nouvel être qui vient d'arriver et puis on sait pas comment ça marche. On sait pas vraiment ce qu'on ressent, on comprend pas vraiment ce qu'on ressent parce qu'on n'a jamais vécu ça, quoi. On n'a jamais vu quelqu'un qui a nos gènes à nous deux arriver comme ça, bébé, et dépendre de nous à 100%. Donc je pense qu'on a été très perturbés par ça dans un premier temps. Mais on en a très vite parlé, donc ça a été. Mais je pense que les premiers jours étaient un peu compliqués pour ça. Après, on avait de la chance d'avoir un bébé qui était assez cool, assez mignon, assez compréhensif avec nous, et un personnel médical aussi qui était vraiment très rassurant. Je pense que c'est ce qui doit faire le plus rassurer les parents à la maternité. Ils doivent passer leur vie à faire ça. Mais on est très en demande de ça, et donc ça fait toujours du bien, on nous rassure jamais assez trop. Et du coup, assez vite, on a réussi à s'apaiser et à découvrir ce monde qui est le fait d'avoir un enfant. Voilà.
Dans cette découverte, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ?
La naissance de la relation qu'on peut avoir d'amour avec un enfant. Comment, de quoi on part ? Parce que je pense vraiment qu'on part de quasi zéro. C'est-à-dire qu'au début, il y a quelque chose qui arrive. C'est plutôt de la surprise, de l'étonnement. Enfin, il y avait un truc où je me disais, c'est encore comme ça qu'on fait les bébés, quoi. On a des ordinateurs, on a des fusées, et les bébés, on fait toujours comme ça, quoi. Il sort, il arrive. C'est incroyable, il y a un être vivant. Et puis petit à petit, ça se transforme en amour. Mais je m'attendais à un truc plus immédiat. Et bon, en fait, non, ça se construit plus vite que n'importe quelle autre relation, mais ça se construit quand même, quoi.
Et dans cette construction, quelle a été votre place, votre rôle, voilà, comment les choses ont évolué à ce moment-là pour vous ?
Dans un premier temps, moi j'avais vu Héloïse qui avait passé 24 heures de travail, etc. Donc je me suis dit, il faut vraiment qu'elle puisse se reposer et que je puisse faire un maximum de choses. Et en fait, j'ai eu tort parce qu'elle s'est sentie un peu mise de côté. Parce que j'étais très demandeur de m'occuper de lui, de le changer, de tout ça, quoi. Et elle m'a à un moment exprimé qu'elle se sentait pas investie parce que je prenais toute la place, quoi. Donc je pense que au début j'étais un peu j'ai un peu surréagi, quoi. Mais petit à petit, voilà, par la discussion, on a réussi à prendre chacun notre place. Et le fait que finalement Héloïse n'a pas allaité, parce qu'elle a commencé à allaiter mais ça lui faisait trop mal, Parce que on a vu après qu'il avait un petit frein de langue, donc il disait que ça pouvait jouer dans le fait de, que ce soit douloureux pour elle. Mais forcément, ça a fait que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir la moitié de la place, quoi, que c'était vraiment 50-50, parce que pour le nourrir, bah, j'étais autant investi qu'Héloïse. Et je me disais d'ailleurs que finalement, si jamais elle l'avait allaité, etc., il y a un tel, il y a une telle fatigue qui est là que je pense qu'en tant que com, rapidement, on doit se dire « Bon, tranquille, comme ça, j'ai pas à m'occuper de ça, je vais pouvoir me reposer. » Et qu'on doit le regretter plus tard quand on se dit « Bah, finalement, ça a fait se construire une relation que moi, j'aurais pas avec mon enfant. » Et alors, sur le moment, c'est vrai que c'était fatigant, on était à moitié, mais aujourd'hui, je suis content de me dire « Bah non, en fait, c'est bien. » Je me sens sur un pied d'égalité avec la mère et c'est quelque chose d'agréable et qui apporte une certaine sérénité à tout ça.
Combien de temps vous avez pu rester avec votre fils et avec Héloïse après la naissance ?
Tout le temps.
Ouais. Ouais, vous avez pris tout votre congé paternité ?
Oui, c'est ça. Donc pendant un mois, déjà à la maternité, je suis resté. Et après, pendant un mois... Donc moi, de toute façon, je suis travailleur indépendant, donc je travaille à la maison. Donc même là, en ayant repris le travail, je suis à la maison. Donc Héloïse s'en occupe forcément plus parce que je travaille, mais si à un moment, elle veut prendre une douche ou juste, je sens que c'est un moment compliqué, où il pleure beaucoup, il y a l'effet souvent changement de bras qui fait que lui, ça peut le calmer. Donc je dis, bah, si tu veux, je m'en occupe pendant une heure et toi, va te reposer, fais autre chose. Donc, non, ouais, vraiment, je suis là, je suis là tout le temps. Ouais.
Toute cette répartition des rôles, c'est quelque chose que vous aviez évoqué pendant la grossesse avec Héloïse, dont vous aviez discuté, ou les choses là se font plutôt spontanément ?
Non, on n'en avait pas discuté du tout. Il y avait déjà quand même ça qui était mon implication pendant la grossesse, etc., indiqué. Je pense que c'était naturel que je sois aussi impliqué après sa naissance. Mais je pense que le fait que Héloïse n'allaite pas a déterminé aussi pas mal de choses, finalement. Et ça s'est fait naturellement, sans discussion.
Dans tout ce parcours, cette construction de votre rôle de père et de place de père, est-ce que vous avez ressenti le besoin d'aller chercher des ressources, de vous faire aider à certains moments ?
Oui, alors déjà, au début, à la maternité, il y a des gens qui sont là pour répondre à toutes les questions, donc ça, c'est plutôt bien. Et puis, par la suite, il y a le pédiatre, ou il y a une sage-femme qui vient à domicile. Et puis après, moi, je me suis pas mal renseigné aussi sur Internet pour me rassurer, tout simplement, de lire les expériences des autres personnes. Quand ça ressemble un peu à ce qu'on a vécu, c'est rassurant de se dire « Ok, c'est normal, en fait, ce que je ressens, plein de gens l'ont ressenti, plein de gens l'ont vécu de la même manière. »
Ouais, vous aviez besoin d'être rassuré que ce que vous viviez ou les inquiétudes que vous pouviez avoir étaient normales.
Oui, ouais. Même avec les amis autour de moi, oui, ça m'a fait beaucoup de bien de voir chez les autres les mêmes choses qui existent chez moi, quoi. C'était très rassurant, et puis... que les gens qui ont vécu ça disent. Et puis finalement, ça se passe bien, quoi. Les gens de ma famille qui m'ont raconté, eux, comment ils ont vécu le truc, qui ne m'avaient jamais raconté avant, et que je me rends compte que, ok, je vis la même chose, c'est normal, tout va bien.
Merci beaucoup, Antoine. Je vous propose qu'on passe dans le salon d'à côté et qu'on rejoigne nos expertes, Virginie Lotte et Anne-Christine Barbeco. Bonjour Virginie Lotte, vous êtes naturopathe, doula et art-thérapeute, mais aussi puéricultrice et autrice. Vous accompagnez des futurs parents et parents en ligne, ainsi qu'au centre des ressources périnatales Nascentia, près de Strasbourg, et aussi en crèche. On peut suivre vos activités via votre compte Instagram, Louve et Lune, et sur votre site internet louveetlune.com. Bonjour Anne-Christine Barbeco. Vous êtes doula également et sophrologue spécialisée en périnatalité. Vous accompagnez des futurs parents et parents autour de la naissance. Et on peut suivre vos activités via votre compte Instagram, Anne-Christine Doula, et sur votre site internet chemindenaissance.com. Et toutes deux, vous êtes l'autrice du livre « Accompagner sa partenaire après l'accouchement, tous les conseils pour soutenir le bien-être physique et émotionnel de la jeune maman » aux éditions Mango. De nombreux futurs papas et papas que j'accompagne, et comme vient de nous en témoigner Antoine, s'interrogent sur leur place, bien souvent dès le début du projet d'enfant. Comment s'impliquer pendant la grossesse, à l'accouchement? Quel va être mon rôle? Que vais-je pouvoir faire pour soutenir, aider ma partenaire? Qu'est-ce que je vis, traverse dans ce bouleversement qu'est le devenir parent, le devenir père? Ils se posent de nombreuses questions. Leur place dans cette période de vie a énormément évolué, mais reste encore beaucoup discutée. Elle est encore loin d'être évidente, tant du côté des hommes, même si ça n'a pas été le cas pour Antoine, que du côté des professionnels de santé. Quelle place pour le coparent, pour le père? Quel est son rôle? Que va-t-il pouvoir faire à chaque étape, pendant la grossesse, l'accouchement, dans le postpartum et dans l'éducation de son enfant? Autant de questions que nous allons aborder ensemble, Anne-Christine et Virginie. Aujourd'hui, il y a une injonction très forte qui pèse sur les futurs pères, c'est d'être présent, investi tout au long de ce projet, de la grossesse et du postpartum auprès de leur partenaire et de leur bébé. Pourquoi est-ce que c'est important, nécessaire, cette présence du père auprès de sa compagne et de son enfant pour vous, Virginie et Anne-Christine ?
On se rend compte que la place des pères dépend beaucoup du contexte sociétal, de la période à laquelle on vit. En quelques années, là, on va dire en un demi-siècle, ça a quand même beaucoup bougé. C'est-à-dire qu'il y a une cinquantaine d'années, on ne demandait pas cette implication au père, ni pendant la grossesse, pas trop, et pas à l'accouchement. Pas spécialement, il n'y a pas si longtemps que ça, les pères n'étaient pas à l'accouchement. L'homme, entre guillemets, est rentré dans le processus de l'accouchement, en gros au 17e, sous un volet médical, en étant médecin, mais ça a toujours été une histoire de femme avant. Ensuite, l'homme en tant que père est rentré depuis en gros les années 50. Donc c'est vraiment pas vieux, hein, à l'échelle de l'humanité, on est sur une toute petite goutte, parce que les femmes accouchaient à l'hôpital et qu'elles se retrouvaient seules, et qu'on s'est dit, tiens, ça serait peut-être sympa quand même qu'elles aient quelqu'un à côté. Et donc, qui de mieux placé que l'homme à ce moment-là? Sauf que du coup, l'homme, il rentre dans ce processus sans aucune transmission, sans l'avoir vécu dans son corps, sans rien savoir de tout ça. Et du coup, c'est assez complexe, en fait. Aujourd'hui, c'est en train d'évoluer, parce qu'il y a cette transmission entre pères, PAIR qui se fait, et puis que nous aussi, notre rôle, c'est de leur décrire en fait tout ce qui va se passer, comment ça va se passer, à quoi s'attendre en fait. C'est pas comme dans les films, hein. C'est pas aseptisé, tout beau, tout joli, le bébé il sort pas dans sa gigoteuse directe, tout propre. Et je pense que c'est une révolution pour l'homme en fait, parce que on sent cette volonté en fait d'être présent, d'être pleinement présent à ce moment-là, mais on sent aussi, c'est ce qui était très émouvant je trouve dans le témoignage, c'est que comment est-ce que je vais rassurer quand moi-même je le suis pas en fait. Et donc, tout en amont, dans cette période de grossesse, il y a tout un travail de venir détricoter, en fait, les croyances qu'on peut avoir, de découvrir, de donner des connaissances, pour qu'on arrive le jour J avec quelques idées de comment ça va se passer, même si ça ne se passe jamais comme on l'a prévu.
En tout cas, de pouvoir acquérir pour les pères des billes de compréhension, finalement.
Complètement. Parce que c'est assez déstabilisant quand même, un accouchement. Il se passe des choses qu'on ne vit que pendant un accouchement. Et donc, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne sait pas trop à quoi on va être confronté. Quand la femme, elle est sans péri, il y a vraiment une transformation en lionne, en louve, qui peut être très déstabilisante en fait, pour le partenaire, avec des cris très animaux. Et donc, s'il ne le sait pas, il peut être un peu désarçonné. Et sous péri, il se passe aussi des choses alors qui peuvent être moins intenses physiquement, mais émotionnellement, qui sont là. Parce que la péri, elle vient endormir des muscles, mais elle ne vient pas endormir l'esprit. Et donc oui, si on n'est pas... Alors préparer, c'est peut-être un grand terme, mais en tout cas, si on n'a pas entendu parler de tous ces processus avant, ça peut être assez déstabilisant. On va dire ça.
Antoine, vous nous disiez voilà, que vous êtes renseigné à chaque étape. Pendant la grossesse, est-ce que vous avez fait une préparation à l'accouchement? Est-ce que vous avez participé à quelque chose dans ce sens avec Héloïse?
Oui, il y avait des cours de préparation à l'accouchement, mais c'est plus un aspect technique de comment se positionner pour la soulager ou pour faire descendre le bébé dans le bassin. Il n'y a pas vraiment de préparation psychologique En tout cas, je n'ai aucun souvenir de conseils là-dessus. C'est beaucoup plus technique, quoi.
Globalement, dans nos accompagnements, on a un retour des pères où ils se sentent peu inclus, en fait. Alors, les sages-femmes les invitent, ils viennent ou pas. Mais même quand ils viennent, en fait, on reste sur des aspects très techniques autour de la femme. Les positions, la respiration, enfin, des choses comme ça. Et peut-être que... Il y a un autre aspect qu'il faudrait développer, c'est un côté peut-être plus subtil, c'est comment est-ce que moi je vais me positionner en fait le jour de l'accouchement, comment je vais être, pas faire, juste être, parce qu'en fait la femme elle aura besoin de ça en fait. Par exemple par un toucher conscient, je vais poser ma main sur le sacrum, parce que souvent ça fait beaucoup de bien à la femme pendant ou entre les contractions, mais si je fais juste poser ma main, ça lui fera pas de bien en fait. Par contre si je pose ma main en conscience, là, ça va l'aider, parce qu'elle va sentir tout l'amour, toute la bienveillance, etc. Et ça, je pense que dans les prépas à la naissance, alors ça doit se faire, hein, y a des sages-femmes qui le font, mais globalement, quand même, c'est assez absent. Et du coup, on perd la subtilité, la sensibilité de l'accouchement. On reste sur du technique. Mais le technique, c'est comme quand... je vais faire la comparaison avec de la danse, par exemple. Quand on apprend à danser, on apprend la technique. Mais une fois qu'on a la technique, on passe à autre chose. Et on passe dans l'être, dans l'âme. Et en fait, l'accouchement, c'est ça aussi. Et les pères, aujourd'hui, dans ceux que je rencontre, en tout cas, ils se sont un peu exclus de cette partie-là, en fait.
On a eu ça parce qu'on a fait de l'autonomie. Et du coup, déjà, c'était marrant parce que... J'avais l'impression qu'on faisait plus attention à moi qu'à Héloïse pendant l'autonomie. Mais tout ce truc de toucher, d'expliquer... elle m'avait fait un moment m'allonger sur le dos en venant me toucher et que je sursautais. Et elle disait, même si je vous dis calmez-vous et que je vous touche violemment, vous allez sursauter, ça sert à rien de dire à quelqu'un calme-toi, ça va aller. Et elle me montrait par le toucher comment on pouvait amener à calmer quelqu'un, etc. quoi. Et c'est vrai que c'était très différent de toutes les autres préparations et très complémentaire. Et je pense que c'est ce qui a le plus aidé psychologiquement pendant l'accouchement, quoi.
Alors ça, c'est un très bel exemple, je trouve. C'est-à-dire que moi, j'apprends mon papa à bercer les mamans avec une écharpe, à bercer le bassin et tout. Mais s'il ne l'a pas vécu, lui, dans son corps, en fait, il ne peut pas ressentir. Donc, il va y aller, il va peut-être faire des gestes brusques, il va dire « Ok, là, c'est trop rapide, trop machin, trop tendu. » Et bien, en fait, la première des choses, c'est que je lui fais à lui. « Ok, est-ce que tu sens, là ?» Et si je fais ça, tu vois, ça tend trop. Donc, en fait, il faut que le mouvement, il soit plus large. Il faut... Et je trouve que c'est ça, prendre soin des pères, en fait. On ne prend pas soin des pères dans cette période-là et du coup, il... Derrière, eh ben, on les laisse un peu livrer à eux-mêmes pour prendre soin de leur partenaire. Donc cet aspect-là, je trouve qu'aujourd'hui, nous on a beaucoup nos accompagnements là-dessus, et parce qu'il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin des pères d'être soutenus en fait dans ce processus.
Oui, d'être soutenu, d'être acteur, d'être considéré, d'être regardé, d'être entendu aussi. Et là, quand vous parliez voilà, de ce passage de la technique à l'être, c'est aussi pouvoir donner la possibilité de se questionner. Est-ce que j'ai envie d'être là? Comment j'ai envie d'être là? Est-ce que peut-être j'ai pas envie? Parce que ça peut sembler effrayant hein, aussi, mais je me sens obligée, ou une partie de moi a quand même envie, voilà, une partie a envie d'être là peut-être à l'accouchement, et puis peut-être une autre pas du tout, parce que ça pourrait me sembler effrayant ou autre. Mais déjà, de pouvoir se poser ces questions, de s'autoriser voilà, à interroger cette présence qu'on pourrait attendre de manière un peu automatique aujourd'hui.
De rester libre.
J'aime bien l'idée de la liberté, c'est que à tous les moments du processus, on peut changer d'avis et on peut ne pas être prêt à participer, à accompagner, à être présent à l'accouchement et puis au dernier moment, dire bah, finalement si. Et puis on peut aussi dire si, j'y serai absolument et puis au dernier moment, mais se sentir juste tétanisé de peur et c'est ok. Et tout ça, si c'est encore une fois, si c'est parlé et puis vraiment détricoté, déplié en prénatal. Ça permet vraiment de faire des choix qui conviennent à chacun, en fait. C'est parce que c'est ça, finalement, c'est de faire des choix qui puissent vraiment être en accord avec chacun.
Et si ça a été pensé en amont, ça veut dire qu'il peut y avoir ce que j'appelle un plan B. C'est-à-dire que, du coup, l'homme est vraiment libre, en fait, de se dire... Là, ça fait 12 heures que ça dure. En fait, moi, j'ai juste besoin d'aller manger, respirer, parce que j'en peux plus. Mais en même temps, si je m'en vais... elle est toute seule, donc je ne peux pas la laisser. Ok, mais j'ai prévu en plan B, il y a quelqu'un aussi qui peut prendre le relais, qui va être là tout le temps, ou juste en remplacement. Ou... Et ça, je trouve que c'est important, et on n'en a pas assez conscience. Un accouchement, c'est ce que vous disiez, ça peut être très long, ça peut être très violent aussi, émotionnellement. Donc il y a des moments où le papa, il a besoin de dire, en fait, là, c'est trop pour moi, je ne peux plus l'accompagner, je ne suis plus dans l'être, je suis un peu en dehors de moi, j'ai besoin de prendre 10 minutes. Mais 10 minutes pour une femme avec des contractions, c'est une éternité. Donc elle ne peut pas rester toute seule. Si elle en a le besoin, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté d'elle, juste qu'il lui tienne la main ou juste qu'il soit là. Et donc le père ne va pas s'autoriser en fait, à sortir. Et pourtant, c'est tellement important. Voilà, donc tout ça, ça se travaille aussi en amont, ça se réfléchit. Et surtout, ça se réfléchit dans cette liberté de pouvoir faire ce qui est juste pour soi au moment où on est.
Oui, et que là, ce qui sera utile pour la femme, c'est d'être pleinement présent, et pas d'être présent, j'allais dire comme une plante verte en tout cas, et finalement être présent, mais alors moi, ce que j'appellerais se dissocier ou s'abstraire du moment parce que c'est trop difficile pour plein de raisons qui sont tout à fait légitimes hein, d'ailleurs. Mais, et du coup, voilà, de pouvoir se connecter et être en accord avec ça, en tout cas. Écoutez ça.
C'est complètement ça, parce que si on a quelqu'un qui est là mais qui n'est pas là, la femme, elle va le ressentir. Et la femme, elle est dans un état d'ouverture à ce moment-là. Elle capte plein de choses subtiles, en fait, hein, dans le non-dit, dans les énergies. Et donc, elle va se poser plein de questions. Elle va dire, en fait, s'il n'est pas là, c'est peut-être qu'il se passe quelque chose qui ne va pas bien, peut-être qu'il y a un truc qui coince. Enfin, et en fait, elle va se faire des films, elle va sortir du processus hormonal, et c'est là qu'on peut rentrer dans de la pathologie. Donc, on a besoin, quand on accouche, d'avoir à côté de soi quelqu'un qui soit là, vraiment posé, quoi, vraiment dans une confiance. Et c'est pas toujours facile, parce que c'est un vrai travail.
Mais comme nous en a témoigné Antoine, on peut être présent là, dans une vraie confiance, tout en ayant peur par moment.
C'est vraiment épuisant.
Mais dans cette présence de la personne qui accompagne la femme qui est en train de donner naissance à son bébé, il y a vraiment une sorte de non-faire. C'est cette présence bienveillante qui n'est pas dans la technique. Et c'est, ça fait toute la différence, en fait. C'est une sorte de... L'idée, c'est comme si on tissait une sorte de cocon invisible autour de la femme et de son bébé. Et que dans ce cocon, en fait, on est les gardiennes de cette femme, de ce bébé, de cette famille qui est en train de naître. Mais c'est effectivement quelque chose qui n'est pas du tout dans la technique, qui est dans cet état d'être, de presque, je pourrais dire, de relation d'âme à âme, en fait. C'est vraiment un état très, très particulier. Ça peut aussi être dans un coin et tricoter. Mais dans cette présence-là, en fait, c'est pas tout le temps aller la voir. Alors, tu vas bien ? Non, surtout pas. Surtout pas.
Du coup, quel... alors, je ne sais pas si on peut dire conseil, mais fil ou piste, voilà, vous aimeriez donner au futur papa, peut-être, qui nous écoute, pour voilà, se préparer à ce moment-là, pour les aider à prendre leur place, alors peut-être déjà pendant la grossesse.
Ben, peut-être déjà d'accepter peut-être de se faire accompagner, en voyant ça non pas comme une faiblesse, mais comme une force pour pouvoir déployer la sienne après. Alors ça peut être par une doula qui est effectivement très spécialisée de ce domaine-là. Hein. Après, il y a aussi des sages-femmes qui font un accompagnement plus émotionnel. Ça existe aussi. Mais de prendre ce temps comme un temps pour mieux se connaître et de cette manière-là pouvoir être davantage à la fois soutien mais à la fois prendre pleinement sa place. Et puis prendre du temps pour soi mais du temps de qualité aussi qui n'est pas forcément du temps volé mais qui est du temps aussi qui va nourrir cette intériorité, parce que pour être parent, ça nécessite énormément d'énergie et il y a besoin de nourrir cette partie-là de soi aussi. Donc, c'est un petit peu les deux choses auxquelles je pense. Anne-Christine ?
Moi, je rajouterais se renseigner. C'est un peu ce que disait Antoine, il a cherché, il était curieux, et je trouve que c'est important de discuter aussi avec d'autres papas qui ont vécu ça. Alors, on ne vivra jamais la même expérience qu'eux, mais en tout cas, voilà, on va commencer à pouvoir se faire une idée de ce que potentiellement on peut traverser. Et donc, je pense que les connaissances, c'est important pour venir nourrir le mental aussi, de savoir comment ça se passe, et pour pouvoir lâcher après. C'est-à-dire qu'une fois que le cerveau il a été nourri, qu'on a compris, qu'on s'est dit « Ok, on va traverser ça, ça, ça », eh ben, on peut dire ben, « On va se laisser porter, en fait ». Ça peut être difficile de se laisser porter par l'inconnu. C'est-à-dire que quand on ne sait pas où on va, on peut avoir des craintes, des angoisses, des peurs qui reviennent. Et donc, plus on va aller nourrir notre connaissance, et plus on va atténuer ça, et on va pouvoir passer au-delà, en fait. Voilà, donc... Je trouve que des fois, en fait, on a des pères qui sont très sur la réserve en disant bah, « En fait, c'est une histoire de femme, bon, il faut que j'y sois, mais je ne sais pas quelle est ma place. » Et puis, en fait, au fur et à mesure des mois, quand on apporte de l'information, ils disent « Ah, ok, en fait, ça va se passer comme ça. Et donc, du coup, là, je pourrais être là, je pourrais faire ça. » Et en fait, ils se projettent au fur et à mesure de ces connaissances, en fait. Alors moi, je les invite beaucoup à prendre soin de l'environnement. Parce que en fait, l'environnement est très important pour la femme qui accouche, c'est-à-dire que elle va avoir ses sens complètement ouverts et donc elle peut être perturbée par certaines choses, par des odeurs, par des bruits, par de la lumière, etc. Et en fait, comme elle est dans le processus de l'enfantement, elle va pas, elle penser parce qu'elle a le cerveau rationnel qui fonctionne plus. En tout cas, c'est souhaitable. Et donc, elle va pas penser à aller modifier les choses. Par contre, du coup, moi, j'invite le partenaire à y penser à sa place. Donc, aller baisser la lumière, peut-être mettre une petite musique qui va pouvoir apaiser un truc qu'elle aime bien, ou mettre un coup de pchit-pchit pour que ça sente bon à l'hôpital. Enfin, voilà, des petites choses qui vont venir, en fait, la soutenir dans tout ce processus. Et puis, après, c'est juste être à l'écoute, en fait, de ce qu'elle vit et d'essayer de ressentir et d'essayer de intuitivement dire « Ok, bah là, peut-être que t'aurais besoin de changer de position. » Est-ce que t'es ok? Et puis peut-être qu'elle va dire non, c'est pas le moment, et c'est ok, mais peut-être qu'elle va dire ah ouais, j'y ai pas pensé, ok, on y va, on change. Et donc voilà, c'est faire des propositions en fait, parce que forcément lui il vit pas ça dans son corps, donc c'est difficile, mais en même temps, faut pas hésiter à proposer, même si derrière il peut y avoir des noms peut-être des fois violents, et c'est ok, mais c'est son rôle en fait de l'accompagner là-dedans.
Dans ce que disait Antoine tout à l'heure, dans la difficulté de voir parfois sa partenaire souffrir, le sentiment, vous ne l'avez pas dit comme ça Antoine, mais ce que je peux entendre moi des pères que j'accompagne, ce sentiment d'impuissance, se sentir extrêmement démuni. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire là aux hommes pour pouvoir traverser cet état?
Qu'en fait, ça fait partie du processus. Voilà, que la femme, elle traverse ça pour devenir mère, et que lui, il traverse ça pour devenir père. Et qu'à partir du moment où on sait que ça fait partie du processus, que c'est normal, déjà, ça permet de prendre du recul, en fait. Ça permet de s'éloigner de cette douleur qui peut paraître être souffrance, et qui l'est rarement, en fait. Voilà, je ne dis pas qu'il n'y a pas de la douleur, mais la souffrance, c'est autre chose. On est dans un autre niveau... Et je pense qu'on parlait des connaissances tout à l'heure, mais connaître le processus de l'accouchement, savoir comment il se passe, savoir ce qui vient le soutenir. Et ben, quand je vois ma femme qui est en train de dire « j'en peux plus, je vais mourir, ouvrez-moi le ventre », comme ça peut arriver parfois, et ben en fait, c'est se dire « ok, elle est à telle phase, en fait, c'est hyper bon signe ».
Et du coup, on arrive presque au bout.
Ouais, c'est ça. Je me souviens de ce qu'on m'a dit. Et du coup, ça veut dire que le bébé, il est là, allez, dans la demi-heure qui vient. Et donc, je vais pouvoir la rassurer parce que moi, je sais que c'est normal. Et la majorité des couples accouchent dans les hôpitaux. Donc, il y a une délégation de la partie médicale à l'équipe médicale qui est hyper compétente en la matière. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce souci-là. La partie médicale, elle est déléguée. En fait, il y a cette partie émotionnelle. Et quand on est rassuré sur le fait que le processus, il est normal, ben, on peut soutenir sa femme.
Après, il y a aussi la possibilité, et ça, c'est un peu plus rationnel,
mais en amont, de rédiger un projet de naissance. Ou sur ce projet de naissance, il est possible d'émettre des souhaits de la manière dont on aimerait en couple que les choses se passent. C'est en aucune façon dire à l'équipe, voilà comment vous devez faire. C'est pas ça, c'est vraiment, encore une fois, une sorte de partenariat. Mais quand c'est entendu, souvent ça aide aussi l'équipe de se dire, ben voilà comment on peut se positionner pour ce couple-là. Et voilà ce qu'on va pouvoir faire si tout est nominal et que tout se passe de la manière...
Antoine, c'est quelque chose que vous aviez fait avec Héloïse, un projet de naissance ?
Oui, on avait fait un projet de naissance, en effet, avec... c'est ça, ce qu'on voulait, la façon dont on imaginait que les choses allaient se passer, etc. quoi. Et qu'on a pu donner aux équipes là-bas et qui a été suivi ce qui est possible aussi, quoi. Parce que selon l'accouchement, des fois, il y a besoin de choses ou d'autres. Mais à chaque fois, ils nous expliquaient, ils nous disaient là, on va pas pouvoir faire comme ça parce que c'est compliqué pour ci et pour ça. Mais en tout cas, ça a été, oui, très respecté.
Et puis, une fois que le bébé est là, Antoine nous disait, voilà, tout de suite, j'ai entendu vraiment souci de soulager Héloïse, qu'elle puisse, voilà, après cette épreuve très, très intense, se peut-être souffler, se reposer. Donc, vous avez pris vraiment en charge votre fils, vous êtes énormément impliqué, ce qui a pu, voilà, nécessiter un réajustement par la suite. Quel va être, voilà, le rôle, là, des pères ?
Ben, dans un premier temps, en fait, le bébé, lui, ce dont il va avoir besoin. Je vais vraiment fixer mon propos là vraiment sur le bébé parce que c'est lui qui arrive, c'est lui qu'on accueille. Lui, il va avoir vraiment besoin de retrouver ces sensations qu'il vivait dans le ventre de sa mère et qui le rassuraient. Et c'est là toute la place que va pouvoir prendre le père en essayant de permettre à ce bébé de retrouver ces sensations sensorielles qu'il vivait in utero. Et au-delà de l'allaitement, si jamais la femme choisit ce mode de manière de nourrir son enfant, le papa va pouvoir avoir toute sa place. Parce qu'il va falloir, finalement, ces sensations, c'est très simple en fait, c'est garder au chaud, c'est balancer, c'est la voix, c'est être touché, être massé, être contenu. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent être faites et dès que l'enfant paraît, c'est possible. Et ça permet vraiment de sauter à pieds joints dans le rôle de père. Et peut-être que parfois, alors là, c'est en faisant quand même certaines choses, en prodiguant des soins à ce bébé, ça permet d'endosser peut-être plus facilement un costume que lorsqu'on est en périphérie.
Là, pour le coup, d'être dans le faire, d'être dans le lien, va aider à la construction, justement, à la rencontre et à la construction de ce lien.
C'est ça. Mais encore une fois, c'est être dans le faire, mais c'est pas dans un faire technique, parce qu'effectivement, à la maternité, on va vous apprendre à baigner en tenant l'enfant comme ça, la pince, le bras, en changeant de certaines manières. Donc, parfois, certains parents ont besoin de ces informations techniques. Mais je trouve que c'est très important aussi de laisser la liberté. Il y a des parents qui n'en ont pas besoin et qui, d'instinct, ont envie de faire comme ils le sentent. Et c'est OK et c'est très bien parce que ces parents-là, de leur rajouter une technique, seront beaucoup plus gauches que s'ils font comme ils le sentent. De toute façon, un bébé, c'est tellement petit que... il faut forcément se réhabituer, même si on en a eu d'autres. C'est de nouveau un tout petit qui... Voilà. Donc... essayer de laisser parler son cœur et pas être dans cette technique. Pour être parent, il n'y a pas de technique. C'est le métier le plus dur au monde pour lequel il n'y a pas de mode d'emploi. Et à chaque enfant, on est nouveau parent. Donc, c'est ça. C'est laisser aussi se donner la permission de faire comme on le sent. Et non pas comme les professionnels savent qu'il faut faire et qui serait comme une sorte de mode d'emploi à suivre.
Virginie, vous nous parliez de l'allaitement. Alors c'est vrai que je peux entendre, comme nous l'a dit Antoine, beaucoup cette idée que finalement, si la femme n'allaite pas, ça sera plus facile pour le père de trouver sa place en participant au fait de nourrir l'enfant. Comment, dans vous, les couples que vous accompagnez, comment cette place, elle peut se prendre dans le cas de lorsque la femme allaite son bébé ?
C'est justement dans ce que j'évoquais, dans cette continuité sensorielle transnatale, finalement, c'est un gros mot, mais c'est finalement permettre de retrouver toutes ces sensations que le bébé vivait in utero, c'est là où le père va pouvoir prendre toute sa place. Et ça n'a rien à voir avec le fait de le nourrir.
Parce que porter un bébé, le rassurer, le parler, le bercer, le balancer, ça peut se faire toute la journée. Et c'est beaucoup plus important en termes de temps que juste le temps qui sera au sein. Alors, c'est sûr que le sein remplit toutes les fonctions de cette continuité sensorielle. Mais au-delà de ça, le papa peut en faire autant à sa manière, en faisant aussi du pot à pot, en faisant... voilà. Donc, et au niveau de la facilité... je pense que ça dépend tellement des couples et des manières de faire. Il y a des couples qui vont dire oh, c'est bien plus simple qu'elle allaite et puis voilà, moi je trouve ma place comme ça. Il y en a d'autres effectivement, comme vous dites, c'est plus simple, chacun fait à part égale. Ça, je pense qu'il y a vraiment pas de règle générale comme dans tout processus de parentalité. C'est vraiment tellement personnel à chacun. Et une chose est sûre cependant, c'est que quand la femme allaite, elle récupérera elle-même beaucoup plus vite parce que le sommeil de la femme qui allaite est transformé. C'est-à-dire qu'en fait, il est fait pour qu'elle récupère au niveau énergie beaucoup plus vite qu'une femme qui n'allaite pas et qui ne va pas avoir ces micro-structures dans le sommeil de récupération. Mais voilà, tout est possible et tout est juste au moment où le couple vit ça. Je pense qu'il n'y a pas de modèle idéal à atteindre.
Anne-Christine, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce point ?
Oui, je voudrais juste rajouter que ce que disait Virginie sur la création du lien à travers le change, le portage, etc., ça fait partie de cette patrescence. On parle beaucoup de la matrescence, mais il y a une patrescence aussi. Et Antoine, il l'a très bien exprimé tout à l'heure, il a dit, c'était pas à vos termes, mais je crois qu'il n'y a pas de coup de foudre en fait. Alors ça peut arriver. Et c'est ok, c'est super, on en profite. Mais en fait, dans une majorité des cas, quand ce bébé il arrive, il n'y a pas ce coup de foudre. Et on a tous cet imaginaire de dire « Ah, je vais tomber en amour avec mon bébé ». Mais en fait, c'est tout un processus qui vient se tisser tout doucement, enfin tout doucement, plus ou moins vite, mais en tout cas, c'est un processus. Et ce processus, il est nourri en fait de tous ces petits gestes au quotidien. Changer une couche, c'est pas changer une couche en fait. Changer une couche, c'est tisser du lien avec mon bébé, parce que je vais être les yeux dans les yeux avec lui, je vais pouvoir le toucher, lui parler, à créer autre chose que juste changer une couche en fait.
Oui, et là, on sait l'importance du temps. Antoine a pris tout son congé paternité, mais l'allongement du congé paternité, qui était une recommandation de la commission des 1000 jours. Voilà, vraiment, dans ce sens, on sait l'importance que pour trouver sa place et construire le lien, il faut du temps. Il faut s'accorder du temps.
On l'a beaucoup présenté comme... Enfin, je l'ai beaucoup entendu, en tout cas, comme un moment de soutien pour la maman. Et ça, c'est très juste. Mais ce mois, c'est ça. Il est aussi pour cette patrescence. Comment je tisse du lien avec mon bébé. Et la semaine dernière, j'étais avec des tout jeunes papas. Ils disaient, mais en fait, un mois, c'est pas suffisant, quoi. Moi, j'ai pas envie de retourner bosser. J'ai tellement de choses à créer encore avec mon petit. Et alors, c'est super qu'il y ait ce mois, qui n'existait pas avant. Mais c'est vrai qu'un mois, c'est court, quoi. Un mois pour un nouveau-né, c'est rien du tout.
Bien sûr, il y a encore beaucoup à faire. Oui. Donc oui, dans ce que vous dites, Anne-Christine, la question de la patrescence, tout à l'heure, Virginie aussi parlait de processus, et dans ce processus de prendre place, de devenir père, c'est un processus qui va se matérialiser concrètement, qu'est-ce que je fais, comment je suis, comment je me sens, mais c'est aussi tout un processus psychique et émotionnel dont on parle assez peu. Et qui prend du temps, qui commence bien souvent au moment du projet, de concrétisation d'avoir un enfant, et puis qui va évoluer tout au long de la grossesse, de l'accouchement et dans le postpartum. Et c'est réellement un bouleversement identitaire. On en parle de plus en plus chez la femme, mais on observe également ce même processus chez le père.
Qui s'insère aussi dans une paternité qui est très changeante. Et donc, il y a à la fois ce processus intérieur de devenir père et à la fois, qu'est-ce que me demande la société ? C'est quoi être père aujourd'hui, en fait ? C'est pas être père comme il y a 50 ans. C'est plus la même chose. Et donc, il y a est-ce que je vais devenir père à l'inverse de mon propre père ? Ou est-ce que je vais copier tout ce qu'il a fait ? Ou est-ce que je vais arriver à trouver ma juste place ? Moi, vraiment, en tant qu'homme, là, quel père j'ai envie d'être. Et je trouve que c'est hyper compliqué, ça, pour les pères aujourd'hui, parce que, en fait, il n'y a plus vraiment de modèle. Il y a 50 ou 60 ans, le père, c'était assez clair, quoi. Il y a un côté autorité, je ramène l'argent à la maison, puis c'est la femme qui s'en occupe. Et je caricature un peu, mais c'était quand même plus établi. Aujourd'hui, c'est hyper mouvant. On sent qu'il y a des choses qui sont en train de se redéfinir, un contour qui est plus net du tout, parce que les pères, ils ont envie d'autre chose. Et donc, ils sont en train de se créer une nouvelle paternité. Et je trouve que c'est difficile pour eux, mais c'est très beau à voir.
Antoine, est-ce que vous avez traversé, vous, ces questions par rapport aussi à votre relation avec votre propre père, qu'est-ce que j'ai envie de reproduire, de ne pas reproduire, de transmettre ou pas?
Oui, il y avait ça, même comparaison au père en général, d'observer autour de soi. En fait, je me suis rendu compte que ça peut aller vite si jamais on a une maman qui est très protectrice, qui veut garder l'enfant pour lui. Je pense qu'en tant qu'homme, très vite, on peut se dire... c'est mieux comme ça peut-être, et puis comme ça, on a envie aussi de retrouver une certaine tranquillité, de se dire j'interviendrai juste à des moments, mais ça peut être apaisant. Et en même temps, je me disais, si je fais ça moi, je le regretterai, quoi. Je pense que j'avais envie d'être présent, et même si des fois il y a des moments où c'était dur, je me disais, je vais y aller, et je pense que c'est la meilleure chose pour construire une relation forte comme je le voulais avec mon fils, quoi.
Quand les choses se compliquent, alors, pour Antoine, vous disiez, j'ai pris beaucoup de place tout de suite, puis assez vite, il y a eu un réajustement, mais justement dans ces situations où il peut y avoir un désajustement, une difficulté à se réajuster, soit un père très très en retrait pour plein de raisons, ou au contraire extrêmement présent, mettant à l'écart presque la maman pour d'autres raisons. Comment là les choses peuvent se retricoter, se retisser?
Mais il y a un besoin qui est souvent évoqué, en fait, c'est celui de pouvoir tisser une relation privilégiée en dehors de la mère. Et c'est parce que finalement, cet enfant qui est lui-même une personne, qui lui-même arrive avec son histoire, etc., il réagira autrement. S'il est juste avec son père ou s'il est avec le père sous couvert de la mère dans certaines situations. Et du coup, de pouvoir créer des moments privilégiés, ça peut permettre à chacun de retrouver une autre place. Parce qu'il y a des... On parlait de plein de raisons d'être un peu en retrait, mais une des raisons, c'est aussi que la place est difficile à investir parce que... ils font jamais assez bien. Parce que le poids est lourd, en fait, que ce soit en postpartum immédiat ou que ce soit un petit peu plus loin, on attend d'eux du soutien émotionnel, parfois financier, de l'aide à la maison, de l'aide... Enfin, beaucoup de choses qui se... Et tant mieux que les choses évoluent et que la répartition des tâches se fait aussi beaucoup mieux, mais d'une manière générale, il peut y avoir un gros poids sur les épaules. Le fait de retisser un lien spécifique avec l'enfant, ça peut remettre parfois de la légèreté et ça peut mettre du jeu. Parce que l'enfant, finalement, il est dans ce jeu, il est dans... en fait, l'enfant, c'est l'instant présent, maintenant, tout de suite, et puis c'est pas autre chose. Et parfois, c'est par justement des toutes petites choses qui, justement, dans cette relation, qui est à la fois une toute petite chose, mais une chose énorme à la fois dans la construction de la famille, qui peut permettre de réaxer, de permettre à chacun de se remettre sur des rails.
Oui, là, dans ce que vous dites, Virginie, ça m'évoque cette question de la confiance. Comment aussi, dans le couple, on peut se faire confiance ou lâcher? Et là, j'entends toutes ces mamans qui, au cabinet, qui me disent « j'aimerais qu'il fasse plus », et en même temps, dès qu'il fait, soit en effet à chapeauter, à dire « tu fais pas bien » parce que le père peut faire différemment et que cette différence, c'est une richesse pour l'enfant, c'est pas forcément moins bien, au contraire, pour le bébé, mais qui, elles, peuvent avoir le souhait d'être dans la perfection, que tout soit toujours parfait pour le bébé, donc il faudrait que tous les intervenants, elles, le père notamment, fassent toujours de la même manière ou et que du coup, là, ça peut aussi amener des hommes qui auraient envie de s'impliquer, en tout cas des jeux relationnels dans le couple parental, à se mettre en retrait. Parce que finalement, si je fais et qu'à chaque fois je suis critiquée, je vais arrêter de faire.
C'est ça. Alors qu'en fait, c'est quelque part très dommage parce que c'est tellement riche d'avoir des manières différentes de faire. Et puis l'enfant, il sait très bien, même tout petit, que les soins, ils sont différents suivant les personnes. Et lui, il n'attend pas la perfection. Et de toute façon, la perfection, c'est tellement du poison. Ça fait partie aussi du processus. Donc, oui. Mmh.
Oui, de pouvoir, du coup, là, en couple, peut-être parler, partager sur comment tu vois les choses, comment tu as envie de faire, pouvoir se donner un peu de marge de manœuvre individuelle. Et souvent, d'ailleurs, ces mamans-là, je leur dis, mais laissez, partez. Voilà, si c'est pas soutenable pour vous de regarder comment votre mari met la couche et que peut-être il y aura une fuite, ce qui n'est pas très grave, mais voilà, restez pas là, laissez le faire, partez. Et puis, généralement, avec l'expérience, elles se rendent compte qu'elles ont aussi à y gagner.
C'est ça. Ou des mamans qui acceptent que le papa sorte avec l'enfant, même tout petit, qu'il aille faire une grande promenade et qu'elle profite à ce moment-là pour elle de se poser, de se reposer. Parfois, c'est insupportable que l'enfant s'en aille seul avec le père. Et pourtant, là, encore une fois, si on change un petit peu de point de vue, ça permet de s'offrir un espace de ressourcement.
Dans ces situations compliquées où les pères n'arrivent pas à trouver leur place, est-ce qu'il y a des choses particulières que vous observez chez ces pères-là, dans ces situations-là ? Alors, c'est un peu générique, mais...
Moi, ce que j'observe, c'est qu'ils vont se mettre en retrait et ils peuvent se désinvestir ou alors tomber en dépression. Et je trouve qu'il y en a de plus en plus, en fait, des jeunes pères qui sont, au bout du rouleau, en fait, parce qu'il y a une pression de plein de choses, une pression de responsabilité, une pression financière, etc. Et du coup, ça devient trop pour eux, parce qu'en fait, ils n'ont pas eu l'occasion de prendre soin d'eux avant, parce que personne n'a pris soin d'eux avant. Et du coup, ils arrivent au bout de quelques mois complètement épuisés. Mais alors, souvent, les femmes, elles réagissent en disant « Enfin, c'est moi qui ai accouché, c'est moi qui l'ai porté 9 mois, il n'a pas le droit d'être épuisé. C'est moi qui suis épuisée. » Ça, je l'entends souvent. Et en fait... si, parce que lui, il a un épuisement qui n'est pas forcément physique, mais qui est psychique. Parce qu'il n'a pas de soupape, en fait. Il n'arrive pas à trouver d'espace. Et sans trouver d'espace, il ne peut pas trouver sa place. Donc c'est un peu... c'est comment est-ce que je peux retrouver des choses qui me nourrissent sans pour autant empiéter sur une nouvelle vie. Alors, je vais citer un exemple. Il y a des hommes qui ont besoin, par exemple, de faire du sport. C'est OK. Donc, tous les vendredis soirs, je vais à la salle, je prends mes 2 heures, je fais du sport. OK. Ça, dans une vie avec un nourrisson, c'est un peu compliqué, surtout si c'est du 18h-20h, la période critique. Laisser la maman à ce moment-là, c'est pas la bonne idée. Mais peut-être que je vais pouvoir, au lieu de faire ça de 18h à 20h, 2h, je vais peut-être trouver un autre espace avec un temps un peu plus réduit, mais qui va venir me nourrir aussi. Et c'est vraiment important d'avoir ce nourrissage, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, je ne peux pas prendre soin de l'autre si je ne peux pas prendre soin de... Enfin, si je ne prends pas soin de moi, excusez-moi. C'est vraiment important que tout le monde ait ça en tête. C'est-à-dire que la maman, on n'arrête pas de leur dire. Tout le temps, on dit prenez soin de vous parce que sinon vous ne pourrez pas prendre soin de votre bébé. Pour les papas, c'est pareil en fait. C'est exactement la même chose.
Et prendre soin de soi en tant que père, donc c'est s'autoriser à prendre ces moments de respiration. Mmh. Qu'est-ce que ça peut être d'autre ?
Ça peut être de la déconnexion psychique, entre guillemets. Moi, je me souviens d'un papa qui me disait, mais en fait, quand je rentre du boulot, si je rentre tout de suite et que je passe la porte de chez moi et que ma femme, elle a passé la journée, que ce bébé qui hurle, elle me jette dans les bras, là, il me dit, en fait, c'est hyper agressif. Donc, en fait, il faisait le tour du pâté de maison pendant 15 minutes, à pied, sans rien. Pas de téléphone, rien. Mais en fait, il me disait juste, j'essayais de me poser ma conscience sur ce qui se passait autour de moi. Un arbre, les oiseaux, la voiture qui passe, peu importe, mais de déconnecter, en fait, vraiment. Et du coup, lui, il avait trouvé son petit sas, en fait, qui lui permettait d'arriver plus serein. Il ne traînait pas toute sa journée de travail derrière lui. Et il pouvait prendre en charge, du coup, ce bébé qui pleurait et sa femme qui en avait marre. Et voilà. Je ne dis pas que ça marche pour tout le monde, loin de là.
Il s'agit de trouver son...
Mais c'est ça.
Son truc à soi, quoi.
Et c'est ça, il faut que chacun cherche, expérimente, en fait. Peut-être que c'est à expérimenter, que ça marchera pas, et c'est OK, on va essayer autre chose, en fait. Et c'est ça, la parentalité, en fait. C'est toujours un exercice, ça dure toute la vie. Parce qu'on va expérimenter à chaque fois que l'enfant grandit, ça marche plus, le rituel du sommeil, c'est cuit, il faut trouver autre chose. Et en fait, c'est un apprentissage d'être parent.
Antoine, est-ce que vous faites des choses pour prendre soin de vous ?
Oui, forcément. Comme on est tous les deux présents à la maison tout le temps, on a vraiment des moments facilement où on peut avoir une heure pour se reposer. Et puis, on a un bébé qui est assez cool, donc qui nous laisse quand même du temps. Cette question, c'est jamais trop posée. J'ai jamais ressenti le besoin avant de dire là, faudrait vraiment que je puisse déconnecter quelques heures. pour l'instant. Peut-être que ça va arriver par la suite, mais pour l'instant, ça va. On arrive à prendre soin de nous sans que ça pose de problème.
Oui, de peut-être pas attendre que, justement, on en ait besoin et que ça devienne vital, entre guillemets. Voilà, de pouvoir être un peu dans l'entretien, finalement, de ça.
Et puis, on n'a pas parlé du soutien de l'extérieur, de la famille, des amis. Y a des associations qui œuvrent pour soutenir les jeunes couples. Et ça, c'est important, en fait, peut-être d'anticiper quand on peut. C'est-à-dire que ne pas se laisser submerger par la logistique alors qu'on a un bébé. Enfin, un bébé, ça prend une disponibilité d'abord dans le temps et puis surtout une disponibilité psychique constante. C'est 24 heures sur 24, une hypervigilance. Et du coup, on aura moins le temps de se faire à manger, donc on va moins bien manger. Donc du coup, en termes d'énergie, on va être peut-être un peu plus à plat. Et ben, avoir un congélateur plein avant, avoir des papy-mamies qui peuvent passer et apporter un petit plat ou garder un aîné s'il y a quelques heures, ou l'emmener à l'école, ou essayer de se simplifier la vie, en fait. Et je pense comme ça aux listes de naissance. Mais les listes de naissance, il y a souvent beaucoup, beaucoup de choses inutiles, quand même. Mmh. Voilà. Et
mettre quelques heures de ménage.
Exactement.
La liste de courses.
C'est ça, exactement.
Ou de menus.
De menus.
Mais par rapport à l'entourage, dans un monde idéal, je trouverais que, tout comme il y a des cours de préparation à l'accouchement pour les parents, qu'il puisse y avoir des cours de préparation à l'accueil du nouveau-né pour les grands-parents, pour les oncles, les tantes. Parce qu'en fait, autant ils peuvent être d'une énorme aide et d'un grand soutien, autant ils peuvent être parfois drainants quand il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis des jeunes parents. Alors qu'en fait, le rôle de l'entourage, c'est de les soutenir et pas de dire « Oh, mais nous n'avons toujours pas invité pour boire le thé et le bébé, on ne l'a toujours pas vu. » Alors qu'en réalité, c'est beaucoup des histoires de vie, mais des histoires égotiques, des histoires... Et qu'il suffirait juste de dire « Ok, de quoi est-ce que vous avez besoin ?» Et même à distance, on peut faire des choses qui sont aidantes et pas arriver avec justement ces vieilles histoires de quand t'étais petit j'ai fait comme ça et puis ça marchait bien, mais je vois pas pourquoi maintenant vous vous embêtez à faire autrement. Et tout ça, ça rajoute une dose de culpabilité et ça rajoute une dose de on n'est pas à la hauteur, on fait pas assez bien. Et c'est juste tellement dommage, alors que ça pourrait être tellement simple, en fait, d'expliquer simplement quels sont les besoins des parents et du bébé et de ne pas prendre les choses personnellement. Donc ça serait vraiment un combat que j'aimerais mener dans un monde idéal. Bon, je le commence un peu, mais...
Par rapport à la question, tout à l'heure, Virginie, vous nous disiez de ne pas hésiter à se faire accompagner. Alors, on a parlé des cours de préparation à l'accouchement, mais par qui quels sont un peu les professionnels? Parce qu'il y en a de plus en plus aussi, des professionnels autour de la naissance qui peuvent accompagner les papas, les futurs papas.
Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Alors, il peut y avoir tout simplement une profession qui est connue depuis très longtemps par... un ou une psychologue, déjà pour commencer. Ça peut aussi être une doula, dont c'est vraiment le travail d'accompagner tout ce processus en amont pour pouvoir arriver le plus sereinement possible à la naissance. Surtout que, après, moi, je recommande vraiment de rencontrer le plus de personnes, éventuellement 2, 3, 4, et voir avec qui on a ce feeling. Parce que... la doula, elle rentre quand même dans votre intimité et il faut vraiment se sentir en confiance. Il faut sentir qu'on est prêt à ouvrir quelque chose de très, très, très personnel. Donc, de rencontrer plusieurs personnes et dire « oui, avec elle, je me sens » ou avec... C'est vrai qu'il y a plus de doula femmes. Il y a quelques doula hommes, mais pas beaucoup, beaucoup. Pour voir vraiment comment on sent que ça résonne. Et surtout que la doula, en fait, elle va pouvoir venir loin. Il y a des doulas qui accompagnent... Moi, je sais que j'accompagne le postpartum, mais au-delà, ça peut être les premières années de l'enfant. Alors évidemment, pas à raison d'une fois par semaine quand l'enfant grandit, mais il y a toujours possibilité de revenir et de revisiter certaines choses et de simplement, des fois, se poser et être écouté. En fait, ça paraît... tellement simple, mais c'est tellement rare, parfois, une vraie écoute. Donc voilà, après, il y a, comme dit, il y a des sages-femmes qui font de l'accompagnement émotionnel aussi, qui sont très formée.
Et de l'accompagnement global qui accompagne femme et l'homme, ou le partenaire, la partenaire, en tout cas le couple parental.
C'est ça. Après, il y a des personnes, des hommes ou des femmes qui ont besoin d'être plus dans le faire. Enfin, donc ça peut aussi être de travailler ça en art-thérapie ou de travailler ça en sophrologie. On se dote de certains outils, entre guillemets, qui vont permettre de... Voilà, on vient les chercher, puis après on peut continuer. Parce que toujours, l'objectif d'un accompagnement, quel qu'il soit, c'est de rendre l'autonomie aux personnes. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive suffisamment à chercher ce qui nous convient pour pouvoir avancer après la tête haute, les cheveux dans le vent.
Est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer un petit peu plus ce que c'est qu'une doula et quelle est un peu, comment ça se passe? C'est une profession dont on entend de plus en plus parler, mais peut-être que les auditeurs se représentent pas très bien dans tout ce paysage des sages-femmes, des gynécologues, exactement ce que font les doulas.
Alors déjà, il y a différents types de doulas. Il y a des doulas qui vont accompagner le prénatal, du désir d'enfant, ça peut déjà être à ce moment-là, qui vont accompagner le prénatal, qui vont être présentes à la naissance et puis dans le postpartum, voire au-delà. Et il y a des doulas qui ne vont accompagner que le postpartum et au-delà. Donc en fait, la doula est une personne qui n'est pas personnel médical et qui va être beaucoup plus dans l'accompagnement émotionnel, qui va être aussi dans cette transmission de connaissances sur la physiologie de l'accouchement. En fait, la doula va proposer une palette d'explications, de transmissions, d'outils pour que le couple puisse dire « Ok, là-dedans, qu'est-ce qui nous parle ?» En tout cas, son rôle, c'est comme ça que je l'envisage et je pense qu'on partage ça, Anne-Christine, c'est que la doula n'impose rien et elle est vraiment garante de cet écosystème familial qui est en train d'émerger, qui est en train de naître, pour vraiment toujours être comme en périphérie, vraiment comme cette gardienne bienveillante de ce qui se passe là. Après, il y a des doulas qui ont plein de formations annexes, qui peuvent être effectivement sophrologues, naturopathes, art-thérapeutes, hypnothérapeutes. Et c'est pour ça que je dis, quand on en rencontre une, il est important de savoir quelles sont ces offres, en fait, parce qu'elles peuvent être vraiment très, très variées. Et il y a autant de doulas que de personnes, finalement. Même si la formation de base peut être la même, après, chacune a ses propres couleurs.
Oui, donc là aussi, d'où l'importance de la rencontre, au-delà de la question peut-être de la technique.
C'est ça.
Anne-Christine, Virginie, pourquoi vous avez écrit ce livre « Accompagner sa partenaire après l'accouchement » ?
Alors nous, en tant que doula, je pense qu'on a la chance de vivre dans un monde où les hommes sont hyper impliqués. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Mais en tout cas, nous, les couples qu'on accompagne, c'est souvent une décision de couple, même si c'est la femme qui initie en fait le mouvement, mais le partenaire, il est toujours là. Mais quand même, malgré ça, on s'est aperçu que dans leur retour, ils disaient qu'ils étaient un peu mis de côté. Et là, on s'est dit, il va falloir faire quelque chose. Et donc, on a creusé, on s'est dit, pourquoi ils se sentent mis de côté? Qu'est-ce qui leur manque, en fait, aujourd'hui? Et en fait, on en est arrivé au livre en se disant qu'il manquait peut-être de connaissances, de savoir de comment ça allait se passer, parce qu'ils n'osaient pas poser la question. Peut-être que la question venait même pas, en fait. C'est-à-dire qu'ils disaient, de toute façon, c'est la vie, tout le monde est passé par là, ça va le faire. On entend souvent ça. Tout le monde l'a fait, ça va le faire. Oui, alors oui, depuis le début de l'humanité, tout le monde le fait, mais des fois, ça le fait pas. Ou moins bien, ou pas dans la fluidité. Et donc, quand on sait ce que sa femme va traverser... Enfin, le livre, on l'a construit comme ça. On a imaginé une petite goutte qui est ce bébé, qui tombe, plouf. Et là, le premier impact, c'est sur la maman. Qu'est-ce qui se passe? Ma femme, qu'est-ce qu'elle vit, en fait, dans son corps, dans ses émotions, dans sa matrescence? Ça veut dire quoi, matrescence? Souvent, les hommes, ils disent, mais c'est quoi ce truc? Voilà. Et puis, en fait, derrière, il y a un autre cercle. Ok, ça va venir toucher ma famille, mais les grands-parents, les parents qui deviennent grands-parents, les frères et sœurs qui deviennent oncles et tantes, enfin, tout le monde va avoir sa petite touche de déséquilibre, en fait, quand le bébé arrive. Et puis, les amis aussi, on va voir qu'il va y avoir un impact. Et puis, le milieu professionnel aussi. Et puis, surtout, moi, en tant qu'homme, finalement, qu'est-ce que ça vient changer en moi? Voilà, donc on a essayé de construire ça comme ça, en disant, il y a plusieurs cercles, en fait, qui vont être impactés, en fait, par cette naissance. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois et comment je peux essayer de le vivre au mieux, en fait?
Et puis on a construit ça un petit peu comme une boîte à outils. Alors on ne dit pas il faut faire ci, il faut faire ça. Mais c'est vraiment, on offre un panel pour que dans toutes ces propositions, ça crée le dialogue. Et que dans ce dialogue qui se crée dans le couple, il puisse émerger leur propre parentalité, quel parent on veut être, etc. Donc c'est vraiment ça. C'est, en fait, ça vient un petit peu bousculer peut-être certaines idées reçues pour pouvoir se repositionner et dire « Ah ouais, tiens, ça, on n'avait pas pensé. Et bah, pourquoi on n'essayerait pas ça ?» Et encore une fois, bah, c'est, on essaye. Ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, bah, on fait autre chose. Et puis si dans 2 mois, bah, ça ne marche plus, bah, on cherche autrement. Et du coup, ce livre est fait un petit peu comme un « Voilà, on va chercher dans cette boîte, tiens, un clou, une vis. » Et puis, on teste.
Dans tout ce que vous venez de nous dire et de nous partager, Anne-Christine et Virginie, voilà, je retiens vraiment cette question du processus, que cette place, elle se construit, que ça prend du temps et qu'on peut avoir plein d'outils pour aider à la construire et pour que ça soit confortable et pas juste ça va le faire. Ça peut le faire de manière confortable et que ça soit joyeux, agréable, vivant. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Virginie, Anne-Christine, qu'est-ce que vous auriez envie de nous recommander ?
Alors moi, il y a 3 livres que j'aime beaucoup, et notamment un qui s'appelle « La naissance d'un père » d'Alexandre Lacroix, qui raconte son processus de devenir père. Donc lui, il a 5 enfants, et il raconte ça avec beaucoup d'humour à la fois. C'est un livre qui se lit très bien et que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et sinon, un autre, c'est « Comment un petit garçon devient-il un papa ?» de Joël Clergé. Et un dernier, c'est « Père manquant, fils manqué » de Guy Corneau. Donc, c'est 3 livres que j'ai beaucoup appréciés. Et sinon, un podcast de RCF, de l'émission, c'est « Voyage intérieur ». Donc, c'est « Quels ingrédients pour de belles relations père-enfant ».
Merci Virginie. Anne-Christine ?
Alors moi je vous invite à lire les livres du docteur Hugren qui a préfacé notre livre, qui est un obstétricien, gynécologue et qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Nouveaux enfants, Nouveaux parents, Nouveaux enfants, pardon. Il a un site sur lequel il met à disposition beaucoup de vidéos dans lesquelles il fait de la préparation à la naissance qui sont accessibles. Et c'est vraiment très intéressant, en particulier pour le père. Je trouve ça très précieux en fait. Voilà. Et puis il y a un podcast que j'aime bien, c'est Histoire de Daron. Voilà, je trouve que c'est chouette. Et c'est toujours très. Il y a beaucoup de sensibilité en fait. Voilà.
Et moi, ce que j'aurais envie de recommander, c'est une BD que je recommande souvent aux futurs pères, qui est la BD de Lucille Gomez sur la naissance. Voilà, pour quand vous parliez tout à l'heure, Anne-Christine, de tout le processus physiologique, en effet, qui explique ça avec beaucoup d'humour. Et voilà, c'est beaucoup plus facile, accessible, et que ça synthétise un certain nombre de livres qui font référence sur ces questions-là. Et souvent, voilà, les papas sont assez preneurs. Voilà, de lire une BD, c'est souvent un peu plus fun qu'un livre qui semble un peu rébarbatif. Un immense merci Antoine d'être venu partager avec nous votre parcours de père et comment vous êtes devenu père. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci beaucoup Virginie, Anne-Christine pour tout ce que vous avez partagé avec nous, tous vos éclairages. Alors je rappelle Virginie Lotte que vous êtes doula et qu'on peut vous retrouver sur votre site louveetlune.com et sur Instagram. Et Anne-Christine Barbeco, on peut vous retrouver sur chemindenaissance.com et également sur Instagram. Merci à toutes les deux.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre « Désir d'enfant » aux éditions Solar est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.